France Inter, le 18-20.
Alors que les états généraux de la bioéthique sont sur le point de s'achever, on s'arrête ce soir sur un des sujets qui a le plus intéressé les participants, à savoir la fin de vie. Et ceux qui en ont débattu un petit peu partout en France ou sur Internet ne sont pas en reste. On assiste en effet depuis quelques semaines à de multiples initiatives dans ce domaine, à coups de pétitions, de contre-pétitions, de tribunes et d'avis divers et variés. Le dernier en date émane du Conseil économique, social et environnemental qui réclame désormais le droit à une sédation profonde explicitement létale. Pourtant, la dernière loi sur la fin de vie, la loi Claeys-Leonetti, n'a que 2 ans et la Haute Autorité de Santé vient seulement de publier le guide destiné à en expliquer la mise en œuvre. En attendant, force est de constater que des Français atteints de maladies incurables et insupportables continuent de se rendre à l'étranger, essentiellement en Suisse et en Belgique, pour y mourir dans la dignité. Alors ce soir, on ouvre le débat sur France Inter avec à nos côtés toujours le président du Comité consultatif national d'éthique, le professeur Delfraissy, qui se doit de rester neutre sur le sujet du fait de ses fonctions. Rebonsoir Jean-François Delfraissy.
Bonsoir.
Avec nous également 2 personnes qui travaillent dans des unités de soins palliatifs, le docteur Frédéric Guériment, médecin anesthésiste à la maison Jeanne Garnier à Paris. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Marion Brouck, infirmière en soins palliatifs au CHU Paul Brousse de Villejuif. Bonsoir à vous également.
Bonsoir.
Et en duplex de Lyon, le député La République En Marche, Jean-Louis Touraine, qui est aussi médecin. Bonsoir, monsieur Touraine.
Bonsoir.
Je précise que vous êtes à Lyon parce qu'il y a une grève des trains, mais heureusement, nos amis techniciens de Radio France Lyon sont là pour cette liaison à distance. On est également avec Daniel Messager de France Inter à nos côtés, et puis vous tous au 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Et tout de suite, un premier appel, celui d'Agathe qui nous appelle de Saint-Brieuc. Bonsoir Agathe.
Bonsoir.
Bienvenue à vous, vous êtes sur l'antenne de France Inter.
Merci. Donc je souhaitais témoigner de la réalité de la fin de vie aujourd'hui en France avec la loi Leonetti. Mon père a subi, on va dire, le protocole de la loi Leonetti il y a quelques mois suite à des lésions cérébrales irréversibles. Et alors que toute la famille était réunie autour de lui, on était tous prêts et très clairement informés sur l'issue de ce protocole, on a réalisé avec stupeur et effarement que la réalité, c'était 12 jours d'agonie, en fait. Là où nous, on pensait que l'hydratation, l'absence d'hydratation, enfin l'arrêt des soins et l'hydratation amènerait une fin rapide et douce, on a réalisé que c'était en fait 12 jours à assister impuissant à la décomposition d'un être cher, d'un être qu'on aime et qui est devenu quelqu'un d'émacié, de squelettique, en permanence dans un râle lancinant et puis à la fin nécrosé carrément avec une oreille noire. Et c'est très très dur, et cette souffrance, cette torture qui est infligée aux familles, là je parle de la torture morale qui est infligée aux familles, c'est très très dur et on ne s'en doutait pas quand on entendait parler de la loi Leonetti.
Merci Agathe pour ce témoignage, et je précise que vous n'êtes pas la seule. Hein. On a de très nombreux témoignages qui disent la même chose que vous ce soir, qui nous arrivent par mail à France Inter et au Standard. Qui souhaite réagir peut-être sur cette loi Leonetti, docteur Guériment, vous qui travaillez en soins palliatifs et qui avez notamment participé à l'élaboration de la brochure qui est censée expliquer l'application de la loi Claeys-Leonetti.
Exactement, de ce guide de la loi Claeys-Leonetti, de ce guide concernant essentiellement le volet de la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Si je comprends bien, Agathe, dans la situation que vous présentez, qui paraît une situation assez dramatique, d'abord sur le plan clinique de ce qui s'est passé là avec ces lésions irréversibles, eh bien, que dit la loi Claeys-Leonetti ? La loi Claeys-Leonetti, c'est essentiellement une loi qui vise à soulager la souffrance et à proposer à tout patient le meilleur apaisement possible de la souffrance avec des professionnels de santé qui se doivent aujourd'hui, qui sont dans l'obligation de tout mettre en œuvre pour le meilleur apaisement possible de la souffrance. Dans le cas présent, cette situation clinique correspond à une des situations qui est prévue par la loi Claeys-Leonetti, c'est-à-dire c'est celle d'une sédation profonde et continue, maintenue jusqu'au décès. Et c'est peut-être, j'espère, je l'espère, ce qui a été fait, ce qui, dans cette situation de coma irréversible, nous permet de penser que ce patient sera soulagé au mieux de ses souffrances et qu'on ne va pas se limiter en aucun cas aux médicaments que l'on va utiliser pour, si l'on a encore un doute, que ces souffrances soient traitées au mieux.
Marion Brook, sur cette sédation profonde, qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, qu'est-ce qu'on fait ? On fait dormir la personne, c'est ça, en attendant le moment fatal ?
Tout à fait. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place. Donc, là, je ne sais pas exactement. On ne sait pas exactement le contexte dans lequel se trouvait le père de notre auditrice. Mais on fait en sorte que le patient soit profondément endormi et ce de manière irréversible, pour qu'il ne puisse plus ressentir aucun symptôme jusqu'à ce que la fin de vie survienne. Donc là, effectivement, dans ce cadre-là, ça rentrait dans un des trois cadres de la loi Claeys-Leonetti. Voilà, juste peut-être une petite précision pour dire que sur ces situations d'agonie qui sont longues, il y a aucune loi au monde qui permet, à partir du moment où c'est pas le patient qui explicitement va demander une injection létale, de pratiquer, d'accélérer la survenue du décès.
Daniel Messager.
Je pense qu'il y a quelque chose de très important qu'il faut vous expliquer aussi, c'est qu'on parle d'arrêt d'alimentation et d'hydratation, donc la famille a légitimement le sentiment, soit qu'on a faim, soit qu'on a soif, cette personne. Il faut que vous nous expliquiez concrètement comment ça se passe. Est-ce que effectivement la personne ressent cette soif? Est-ce qu'elle en souffre? Et ce qui a été donné, des détails mais vraiment très bouleversants, par cette auditrice, est-ce que on voit la personne émacier et s'amaigrir? Est-ce qu'on la voit se nécroser? Il semble que le tableau qu'elle nous expose là soit quand même particulièrement impressionnant.
C'est impressionnant. De toute façon, la fin de vie, mourir, c'est pas forcément quelque chose de beau et d'agréable par définition. Donc, c'est quelque chose de difficile. Après, sur la question de l'hydratation et de la nutrition artificielle, faut réussir à pouvoir bien délimiter deux choses. C'est-à-dire que tant qu'un patient est en capacité de déglutir, on va jamais empêcher un patient capable de déglutir de boire ou de manger. Donc, on n'arrête pas l'alimentation. Ce qu'on arrête, en revanche, c'est l'hydratation ou la nutrition artificielle, donc qui sont des traitements de maintien artificiel en vie. Et donc ça, quand on les arrête, en général, l'état du patient fait que il est plus en capacité de ressentir cette sensation de faim, puisque pour mourir de faim, par définition, il faut avoir faim. En l'occurrence, les patients qui sont en toute fin de vie n'ont plus cette sensation de faim. Autre chose qui est très important, quand il y a cette sensation de soif qui persiste, c'est pas les perfusions d'hydratation qui vont changer quoi que ce soit au problème, c'est en l'occurrence notre métier au quotidien, c'est-à-dire de réaliser des soins de bouche et de faire en sorte que la sensation n'existe pas. Donc ça, c'est notre métier.
C'est ce qu'on fait. Merci pour toutes ces explications. Il y a Jean-Louis Touraine qui est en direct de Lyon qui souhaite intervenir. Monsieur Touraine, je précise avant de vous donner la parole que vous êtes à l'origine d'une tribune signée par 156 députés qui demande une nouvelle loi sur la fin de vie, parce que visiblement vous n'êtes pas satisfait, vous, de la loi actuelle.
Oui, elle a besoin d'être complétée, comme beaucoup de personnes l'indiquent. Hein. Vous avez tous les sondages qui montrent qu'au moins 90% des Français souhaitent, comme le président Macron, comme moi-même, que l'on puisse choisir sa fin de vie. Le témoignage d'Agathe me paraît très important. Il est important parce que j'en ai entendu assez souvent de comparables. Et il partage en définitive les professionnels des soins palliatifs. Prenez l'exemple de ce que dit Madame Véronique Fournier, qui est à la tête du Centre National des Soins Palliatifs. Elle remarque, elle, que les professionnels de santé osent paradoxalement moins recourir à la sédation profonde et continue jusqu'au décès qu'avant la loi qu'il a mis en place, puisqu'avant ça pouvait se faire dans des dispositions réglementaires qui n'étaient pas encadrées par une loi mais qui existaient. Mais depuis la loi, les conditions, les règles sont devenues plus complexes, plus restrictives, plus dissuasives, et donc les gens sont plus gênés pour l'appliquer. Et puis surtout, ce n'est pas principalement la demande d'un grand nombre de patients. Je vais vous citer juste quelques mots du docteur Corinne Van Oost, qui prit dans son livre « Médecin catholique, pourquoi je pratique l'euthanasie ?» Elle dit « Un malade qui souffre en appelle à la mort, mais rarement au sommeil. Il sait qu'en dormant, il ne pourra plus décider de rien, même des petits détails de l'existence, et qu'il ne sera plus en mesure de communiquer avec son entourage. Faire dormir, c'est faire taire. Pour les soignants, en user de cette sédation, c'est avant tout un aveu d'impuissance. » C'est vrai que moi, de tous les témoignages que j'ai reconnus, et ils sont nombreux, et de toute mon expérience personnelle auprès de malades en fin de vie, je n'ai pas entendu de malades réclamer d'être endormi pendant deux semaines, comme le cas rapporté par Agathe. Je n'ai entendu que des malades disant « soit je veux attendre la fin de vie naturelle Et il faut respecter cela, ce qui n'est pas fait dans les hôpitaux français, malheureusement, puisque dans 2000 à 4000 cas, il y a des euthanasies pratiquées illégalement, mais pratiquées dans les hôpitaux français. Et dans les deux tiers des cas, c'est sans l'avis du patient. Donc on voit bien que la volonté d'attendre la fin de vie n'est pas respectée. Soit il y a des malades qui disent « je n'en peux plus, c'est intolérable cette agonie, délivrez-moi de cette agonie ». Et dans ces cas-là, eh bien, il faut pouvoir, et c'est ce que la loi prochaine, je l'espère, apportera, il faut pouvoir entendre cette demande des malades et ne pas chercher un substitut à leur demande sous la forme d'un sommeil très prolongé.
Merci beaucoup Jean-Louis Touraine. Une petite, on ouvre une parenthèse à ce niveau-là avec vous Jean-François Delfrécy. Dans le prochain projet concernant les lois de bioéthique, est-ce que la question de la fin de vie sera incluse ou pas, ou est-ce que ce sera une autre loi de s'en occuper ?
Alors, dans les états généraux de la bioéthique, le sujet autour de la fin de vie existe et est un des neuf grands sujets. On l'a mis parce que finalement, c'est l'occasion de débats citoyens, comme je l'évoquais précédemment, est quand même assez rare. Et il nous paraissait logique qu'il y ait un débat autour de la fin de vie. Donc je suis vraiment content qu'on l'ait mis. Et quand je vois l'ensemble de ce qui était en train d'être discuté par chacun d'entre vous, c'est important. Alors ce qui sort, c'est premièrement que c'est un des quatre grands thèmes qui ressort finalement, soit sur le site web, soit dans les débats, soit dans les auditions. Hein. Le deuxième élément qui sort, c'est une grande anxiété, inquiétude, mal-être des Français vis-à-vis de ce sujet. Parce que ça nous touche tous, ça va nous toucher, où on a eu des parents, des circonstances qui sont évidemment d'une série d'histoires personnelles et qui ne construisent pas une décision globale, mais qui sont importantes à prendre en compte. Et enfin, voilà, on est un grand pays, on est un grand pays dans le domaine de la santé. Et on sent bien que voilà ce que nous avons actuellement ne répond pas pleinement
La loi n'a que deux ans
à l'anxiété, à cette anxiété des Français. Alors après, est-ce que ça ira d'abord, quelle décision sera prise, parce qu'il y a quand même aussi un temps d'amélioration des soins palliatifs, une extension des soins palliatifs, qui est un élément clé quand même dans l'ensemble de ce débat, mais qui ne résout probablement pas tout. Est-ce que ça sera dans la loi révision de la loi bioéthique ? Ce n'est pas de la bioéthique. Hein. On est dans un des vrais grands débats sociétal et éthique. Ça, bien sûr, ça va de soi. Donc, ce sera au gouvernement et à la Chambre de décider finalement où ils veulent le mettre, soit c'est dans la loi de bioéthique, soit c'est dans un autre outil législatif. Voilà.
Et ça, on verra. On repart au standard, Daniel Messager, je vous donne la parole tout de suite. Après, cette fois, c'est Elisabeth qui est en ligne de Vendée. Bonsoir Elisabeth, bienvenue à vous.
Bonsoir.
On vous écoute.
Oui, alors moi, je tenais à vous appeler pour donner un petit élan positif sur la fin de vie. Je suis soignant dans une équipe, dans un EHPAD. Et nous faisons vraiment un très beau boulot grâce à une formation que nous avons eue par l'équipe mobile de soins palliatifs de La Roche-sur-Yon, menée par le docteur Dano. Donc toute l'équipe a été formée. Ça fait déjà 20 ans qu'on travaille beaucoup sur l'accompagnement de fin de vie. Il faut savoir qu'on est dans une équipe aussi où la fin de vie ne veut pas dire être alité pendant des semaines. Comme disait Monsieur Delprécy, l'homme debout, c'est très important. Il faut savoir que, par exemple, dans mon EHPAD, il n'y a que 5 jours entre l'arrêt de la station debout et le décès. Ce qui veut dire que les personnes âgées sont accompagnées dans le respect de leur choix de fin de vie, sont accompagnées donc avec toutes les techniques qui peuvent être utilisées actuellement. Nous appliquons la loi Leonetti. Et je pense que si déjà les médecins traitants étaient formés, parce qu'il faut savoir que moi j'ai redemandé à mes 15 médecins traitants combien de temps leur avait été alloué en formation de médecins, souvent ils me disent entre une journée, deux journées sur la fin de vie, ce n'est pas possible que ces médecins-là accompagnent des personnes en fin de vie, même sur des fins de vie qui sont plutôt, on va dire, naturelles. Et ils ne connaissent pas les molécules à utiliser, ils ne connaissent pas obligatoirement le savoir-être et le savoir-faire qu'il faut malgré leur formation de médecin traitant. Et c'est pour ça que, par exemple, l'année dernière, moi, je me suis battue avec l'ARS pour que nos 15 médecins médecin traitant puisse avoir accès à une formation avec l'équipe mobile de soins palliatifs, et je peux vous dire que le résultat, il était trop bon.
Merci Elisabeth, merci beaucoup pour cette intervention. Il y a tous les doigts qui se lèvent dans le studio, tout le monde veut vous répondre, visiblement tout le monde approuve, il y a même Lyon qui veut réagir, on va y aller doucement, on va par étapes. Docteur Guérimand, peut-être pour commencer.
Merci beaucoup pour votre témoignage, et là on est vraiment sur un vrai problème de santé publique. Les EHPAD, c'est 600 000 résidents, et quelque part les EHPAD c'est aussi un lieu de fin de vie, puisque 30% des patients meurent en EHPAD chaque année sur ces 600 000. Donc, et là-dessus, on a un grand nombre de décès qui sont des décès qui sont prévisibles. Et pourtant, tout ne se passe pas toujours comme chez vous, malheureusement, avec des parcours de soins qui sont extrêmement chaotiques, avec des recours aux urgences de façon totalement inappropriée par manque de formation, par manque d'anticipation. Et vous abordez la question clé qui est aujourd'hui celle de la formation. Et aujourd'hui, là, il y a peut-être un cri d'alarme à lancer, puisque là, alors que le débat politique est clairement mené, alors qu'il y a vraiment une volonté de développer les soins palliatifs, eh bien là, on est vraiment d'un point de vue de la formation, en tout cas des médecins, sur une régression. Je pèse mes mots, on est plutôt sur une régression. Dans leur cursus médical, les étudiants en médecine ont environ de 5 à 15 heures consacrées à la fin de vie, alors qu'en France, il meurt à chaque minute une personne. 600 000 décès par an. Voilà, ça c'est un constat. Qui va faire cette formation? Qui va prendre son bâton de pèlerin pour aller dans les universités? Sur les 39 universités françaises, nous n'avons que 5 professeurs associés de médecine palliative. C'est vous dire qu'il n'y a aucun poids pour organiser ces enseignements de médecine. Et là, eh bien, il faut bien dire que c'est du recours aussi, c'est du ressort des doyens qui ne font probablement pas tout leur boulot pour justement traduire en termes de santé publique ce qu'il en est. C'est du ressort aussi de la conférence des doyens qui ne prend pas du tout à bras le corps ce problème qui est un problème essentiel de la formation médicale, et en plus une diminution aujourd'hui sur la formation du troisième cycle avec la réforme du troisième cycle des études médicales qui fait que demain nous aurons de moins en moins de médecins formés, avec aujourd'hui des unités de soins palliatifs qui ferment comme au Mans, ou des réseaux qui n'ont plus de médecins et qui ne peuvent plus fonctionner par défaut de médecins formés.
Et ça, Marion Brooke, ça ne concerne pas que les médecins. Ça concerne aussi les infirmières, les aides-soignantes.
Tout à fait. En termes de formation, moi, je rejoins parfaitement ce que vient de dire Elisabeth et le docteur Guérimand. J'aimerais bien poser une petite question, si moi je peux, à Jean-Louis Touraine, parce qu'on voit se succéder des rapports qui font état du mal mourir en France, et parallèlement fleurir donc des propositions de loi ou autres tribunes, de députés qui sont en faveur de la légalisation des injections létales. Moi, j'aimerais lui demander.
Il vous écoute.
Concrètement, Monsieur Touraine, est-ce que vous pensez que la légalisation des injections létales va permettre de mieux mourir en France aujourd'hui?
Jean-Louis Touraine à Lyon.
Alors, Madame Brooke, vous m'avez écrit il y a 2 semaines, je crois, ou 10 jours, et j'ai dicté la réponse, vous ne l'avez peut-être pas encore reçue. Mais effectivement, je répondais à cette question. Je ne pense pas que l'aide active à mourir soit la solution unique. Au contraire, ça ne concernera que moins de 1% des décès. Ça correspond à des gens qui ont des maladies incurables et avec des agonies particulièrement pénibles. Donc c'est un pourcentage relativement modeste. Alors que les soins palliatifs concernent devraient concerner toutes les personnes en fin de vie, sauf les cas, bien sûr, de mort non prévue, accidentelle, brutale. Donc on voit bien que actuellement il n'y a que 40% des gens qui relèvent des soins palliatifs qui y ont effectivement accès. Donc naturellement, nous avons dans le groupe de travail que je préside à l'Assemblée nationale comme première priorité de donner tous les moyens et d'inciter le gouvernement à ce que tous les moyens soient débloqués le plus vite possible pour qu'on arrive à 100% des personnes accédant aux soins palliatifs. Et ce qui est important dans ce que disait Elisabeth, c'est que effectivement, il faut qu'il y ait un continuum, il faut qu'il y ait des services de soins palliatifs, mais il faut peut-être plus encore qu'il y ait des équipes mobiles de soins palliatifs et qu'il y ait une formation de tous les médecins, infirmières et aides-soignantes de tous les endroits où sont accueillis des personnes très âgées ou des personnes qui ont des maladies incurables, de sorte que tout le monde puisse y contribuer. Il n'y a pas seulement d'un côté les professionnels des soins palliatifs et de l'autre côté des médecins repoussant toujours les limites de la vie plus loin. Non, il doit y avoir une coopération entre tous. Et bien évidemment, quand une équipe mobile de soins palliatifs vient quelque part, elle n'est pas toujours capable de rester tout le temps ici, mais le relais peut être pris par les autres membres de l'équipe d'accueil des patients s'ils ont une formation de base. Et donc, je crois qu'il y a là quelque chose de fondamental sur lequel nous nous attachons et nous pensons que, comme dans la plupart des pays qui ont déjà légiféré, les deux vont ensemble, développement des soins palliatifs et développement de la solution pour ceux qui demandent à être délivrés d'une agonie. La Belgique, par exemple, assure 100% de soins palliatifs et répond aux demandes de ceux qui veulent ne pas avoir d'agonie. Et je crois que c'est sûrement quelque chose qui est tout à fait accessible. Il faut quelques efforts. Dans ce que disait Elisabeth, il y a une expression que j'ai bien aimée quand elle parlait des personnes qui restent jusqu'à 4 ou 5 jours avant l'échéance ultime debout. Parce que moi, j'ai entendu aussi des personnes en fin de vie dire d'une expression qui apparaîtra peut-être curieuse à certains, ils disent « nous voulons mourir debout ». Ce qui veut dire dans leur esprit, bien sûr, c'est pas debout au sens physique du terme, ça veut dire ils veulent mourir conscients jusqu'à la fin de leur vie. Ils ne veulent pas être dans cette léthargie dont nous a parlé tout à l'heure Agathe pendant 2 semaines. Ce n'est pas ça leur vœu. Ce qu'ils veulent, c'est pouvoir être entourés de leurs proches, de ceux qu'ils aiment, et puis délivrer leur message d'amour et
merci Jean-Luc Touraine.
Différentes recommandations. Et puis ensuite, eh bien, ils veulent que l'agonie étant là, qu'on les délivre de cette souffrance intolérable par l'injection qui permet de les soulager.
Daniel Messager, et on repart au standard après.
Oui, juste pour dire que le mot principal, si on devait en retenir qu'un, a été prononcé, c'est celui de formation, effectivement, parce qu'on pourra faire des lois à l'infini. Tant que les médecins ne sont pas formés, tant que cette formation ne ruisselle pas au sein des équipes et qu'elle n'est pas donnée, je discutais tout à l'heure un peu avec Marion Brook avant l'émission, qu'est-ce que vous me disiez? Vous me disiez que la formation, c'est vous qui la donniez, dans votre équipe, et que vous la donniez en plus de votre temps de travail, c'est-à-dire en gros, vous travaillez à 200%. Vous avez votre temps de travail au sein de votre équipe de soins palliatifs et puis la formation à côté, et que ça, c'est pas pris en compte. Et ben, tant qu'on n'a pas résolu ça, on pourra faire des lois à l'infini et elles ne seront pas appliquées parce que les gens ne sont pas formés et parce que Monsieur Touraine disait tout à l'heure, il y a des règles trop restrictives et trop compliquées. C'est pour ça que c'est pas parce que les règles sont trop compliquées, c'est parce qu'on ne les, enfin, parce que cette formation n'est pas donnée aux médecins et qu'ils ne fournissent pas ce droit auquel a le malade, qui est de finir sa vie effectivement en dignité avec les soins appropriés.
Je vous redonne la parole à tous, mais on repart au standard de France Inter.
France Inter, le téléphone sonne. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Marie est en ligne. Bonsoir Marie.
Bonsoir.
Vous avez souhaité intervenir?
Oui, mon nom, je vais vous le donner en entier, c'est Marie Godard. Je suis à l'origine d'une des pétitions qui ont déclenché l'auto-saisine du CESE. Nous avons obtenu, Nathalie Guérard de Bernardier et moi, avec nos deux pétitions, plus de 350 000 signatures, ce qui a déterminé donc la saisie du sujet. Et nous avons été auditionnés en décembre dernier au CESE. Alors, moi, je voudrais vous dire la chose suivante. J'en ai vraiment assez, et c'est le message que je reçois tous les jours par de très, très, très nombreux signataires de l'opposition qu'on souhaite faire entre les soins palliatifs, la loi Claeys-Leonetti, et une éventuelle loi sur l'aide active à mourir. Madame Buzyn a répété à de nombreuses reprises qu'il fallait laisser à la loi Claeys-Leonetti, qui venait à peine d'être votée, dont les décrets n'étaient pas encore en place, le temps d'évoluer et de faire son travail. Mais bien évidemment qu'il faut donner toutes les chances aux soins palliatifs. Il faut qu'ils soient dans tous les coins de France, même les plus reculés. Il faut bien évidemment que le personnel soit formé à dispenser ces soins palliatifs. Il faut qu'ils soient disponibles à la maison.
Mais
oui, bien sûr. Mais il y a un certain pourcentage de la population, même s'il est faible, qui n'est pas candidat à la réception de ces soins palliatifs, soit parce qu'ils sont dans un état de souffrance qui ne peut plus être soulagé de façon efficace, soit parce qu'ils ont perdu toute qualité de vie ou sont en train de perdre toute qualité de vie en raison de maladies neurodégénératives. Et la première personne qui nous vient à l'esprit, à tous, c'est bien sûr Anne Baer, qui est devenue l'égérie de ce combat. Et pour ces personnes-là, on n'a pas le droit de se dire que les soins palliatifs font l'affaire dans la plupart des cas et laissons le temps au temps, et ainsi de suite. Et j'ajoute que les personnes qui nous écrivent nous disent qu'ils en ont plus qu'assez d'attendre les tergiversations, les hésitations, les avancées, les reculs, et qu'ils ont vraiment envie que l'on prenne en compte les 90% des Français qui veulent cette loi.
Merci Marie, merci beaucoup. On a bien compris votre démarche, et je précise que le CESE, c'est le Conseil économique, social et environnemental, qui donc demande la légalisation de la sédation profonde explicitement létale. Vous êtes nombreux à partager cette position. Jean-François Delfrécy, est-ce que vous aussi vous remarquez dans les débats à la fois cette demande d'une part d'améliorer les soins palliatifs et puis quand même de prendre des dispositions légales pour permettre à ceux qui le souhaitent de finir leur vie sans attendre d'être dans un état qui impliquera cette sédation profonde.
Non, mais sur ce sujet complexe, je pense que tout le monde est d'accord. Mais on pourrait d'abord acter ça, d'ailleurs, que tout le monde est d'accord, pour optimiser le système français autour de prise en charge des soins palliatifs et optimiser, les circuits de soins. Parce que là, on évoque des cas difficiles, mais il y a des cas encore plus difficiles quand on est dans un hôpital général et qu'on voit des personnes âgées envoyées par un EHPAD pour finir sa vie à l'hôpital en urgence qui traînent sur un brancard. Il y a des choses qui ne vont pas. Bon, donc.
Mais ceux qui sont obligés de partir en Suisse ou en Belgique,
il y a un ensemble où le premier grand message qui sort, en tout cas des États généraux, c'est optimisons finalement cet aspect des soins palliatifs. Et puis après. Oui, c'est une réalité. On a une France qui est pas forcément toute du même avis, et on a en effet une proportion non négligeable de la population française qui souhaite aller plus loin et une autre qui ne souhaite pas aller plus loin. Voilà ce que je ressens et dans un climat, je dirais, d'inquiétude sur de comment on va se situer, est-ce qu'on a fait, notre discussion avec les médecins a été la bonne. Donc c'est un moment un peu complexe, mais probablement important pour notre pays d'avoir à prendre une décision autour de cela.
Daniel Messager, après Marion Brouck, après Dr Guérimont. Alors, et après on part à Lyon.
Il a été mentionné le cas Anne Baer parce qu'effectivement c'est un cas extrêmement symbolique. Dans la rédaction par la Haute Autorité de Santé des recommandations autour de la sédation profonde et continue, il est dit qu'elle doit être appliquée à des personnes en fin de vie et que cette fin de vie on la détermine à quelques heures, à quelques jours. Ce qui n'était pas le cas de Anne Baer, effectivement, qui n'était pas en fin de vie. Donc plusieurs voix se sont élevées pour dire que ces recommandations n'allaient pas assez loin, qu'elles étaient trop restrictives. Et justement, je voudrais avoir l'avis de nos invités. Qu'est-ce qui se passe pour ces personnes qui ne sont pas en fin de vie, telles que c'est...
Qui ne relèvent pas de la sédation profonde actuelle.
Qui ne relèvent pas, telles que c'est déterminé, telles que c'est défini dans les recommandations de la Haute Autorité de Santé.
La question clé, sans rentrer complètement dans ce débat sociétal, je suis obligé de reprendre ma casquette de médecin. Et je crois que c'est ça qui est important, c'est sur un plan clinique qu'est-ce qui se passe. Quelle que soit la personne que l'on a en face de nous, il y a un fait qui est un fait scientifique aujourd'hui prouvé par toute la littérature internationale. C'est que tout patient en phase avancée ou terminale de maladie qui demande une euthanasie, c'est d'abord et avant tout un patient qui souffre. Et que le clinicien, le médecin que je suis, le professionnel de santé, se doit d'abord d'écouter, de comprendre, d'analyser qu'est-ce que c'est que cette souffrance. Est-ce qu'elle est physique? Est-ce qu'elle est psychologique? Est-ce qu'elle est existentielle? Est-ce qu'elle est aussi sociale? Et il y a beaucoup de souffrances sociales. C'est souvent très entremêlé. Ça nécessite une approche complexe, forcément.
Mais il y a des gens qui savent qu'ils ont une maladie telle que ça va être de toute façon terrible, maladie dégénérative.
Et il y a aussi des patients qui ont une maladie terrible et dont la qualité de vie se maintient. Nous, on a vu arriver, il y a quelques mois, un patient à la maison médicale Jeanne Garnier qui avait donc une sclérose latérale amyotrophique avec déjà il avait une ventilation intermittente, mais il gardait une certaine autonomie et nous dit « je viens pour un arrêt de la machine ». Voilà. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé ? On a dit, on l'a respecté, on lui a dit, écoutez, très bien, et nous demandons d'abord à vous connaître, à vous comprendre, etc. Voilà, ça a pris 2 jours, et au bout de 2 jours, il n'a même plus été question de l'arrêt de la machine. C'est un patient qui était complètement isolé, qui ne pouvait plus sortir de chez lui parce que simplement il était en fauteuil et qu'il y avait des marches et qu'il était complètement isolé chez lui. Là, il a retrouvé un appétit de vivre. Il a retrouvé, grâce à une prise en charge qui n'était pas spécialement une prise en charge médicamenteuse, il y avait un tout petit peu de médicaments contre la douleur, mais il a été pris en charge notamment en art-thérapie. Là, il a retrouvé sa capacité, une certaine liberté, une certaine possibilité de créer. Créativité, bref, il a retrouvé quelque chose.
En tout état de cause, les soins palliatifs peuvent répondre à toutes les questions.
Non, je dis absolument pas ça. On n'est pas dans le monde des bisounours non plus. Attention de regarder aussi la fluctuation de la demande. Attention de regarder que nous, on a, c'est vrai, des demandes d'euthanasie. Et il y en a, et dans toute la littérature internationale, il y en a. Et c'est pas parce qu'on a travaillé en unité de soins palliatifs qu'on n'a pas de demande d'euthanasie. On en a. Mais elles sont aussi fluctuantes. C'est-à-dire que celles qui persistent, eh bien, c'est une demande d'euthanasie sur 10. Et je ne veux absolument pas minimiser un patient qui formule une demande d'euthanasie. C'est un patient vraiment dont la souffrance est extrême puisqu'il en vient à demander qu'on mette fin à ses jours.
Marion Brook.
Sur les demandes d'euthanasie, je rejoins parfaitement ce que vient de dire le docteur Guériment, mais ce qu'on constate dans les faits, dans la vraie vie sur le terrain, c'est que quand on a des patients qui arrivent en unité de soins palliatifs et qui ont cette demande d'euthanasie, il y a 2 problèmes. À chaque fois, c'est les 2 mêmes problèmes qu'on retrouve. D'une part, on a les patients qui sont insuffisamment soulagés, qui ont des symptômes, mais assez dramatiques, qui n'ont, par exemple, des patients cancéreux, qui n'ont jamais reçu de traitement morphinique.
C'est encore possible.
La semaine dernière, juste un exemple comme ça, il y a une infirmière d'équipe mobile qui me dit qu'elle est allée dans un service de gériatrie avec un patient qui avait un cancer et qui était en fin de vie, une dame très douloureuse, et elle a conseillé au médecin de mettre en route un traitement morphinique, et le médecin lui a dit mais on n'en est pas encore là. Donc cette dame n'a pas eu son traitement. Donc ce sont des gens qui arrivent avec des symptômes qui sont absolument pas soulagés. Donc là, c'est le manque de formation dont on parlait. Je pense que ça, c'est la base de tout. Il faut absolument former tous les professionnels de santé aux soins, à la culture palliative, aux soins palliatifs. Et le deuxième problème sur ces demandes d'euthanasie qui existent, faut pas le nier, c'est aussi des patients qui sont victimes d'un acharnement thérapeutique qui est absolument monstrueux. Dans l'unité dans laquelle je travaille, on voit régulièrement des patients qui arrivent et qui ont qui arrivent dans un état physique complètement dégradé et qui ont eu des chimiothérapies juste avant d'arriver chez nous, alors qu'ils sont arrivés au terme de leur vie. Dans le rapport du CESE, il est expliqué que 50% des chimiothérapies anticancéreuses donc, sont administrées aux patients dans les 15 derniers jours de la vie.
Mais les médecins qui pratiquent ça sont hors la loi.
Eh bien, complètement, puisque la loi Léonetti,
c'est interdit.
Donc, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut faire, et l'urgence est là, c'est de mettre tous les moyens pour évaluer ce qui est de l'ordre de l'obstination déraisonnable, et puis par rapport, et puis mettre beaucoup plus de moyens dans la formation de tous les soignants, qu'ils soient médicaux ou paramédicaux.
Docteur Guériment, je redonnerai la parole, mais Jean-Louis Touraine est à Lyon et on le voit pas, mais il appelle pour intervenir. Par contre, Jean-Louis Touraine, je vous demande une chose, faites court parce que il est déjà 54, si on veut que tout le monde puisse s'exprimer, il va falloir accélérer un petit peu le tempo.
Je veux juste féliciter Madame Marie Godard pour sa détermination et l'efficacité de sa démarche qui a recueilli plus de 350 000 signatures et donc la saisie du Conseil économique et social. Et je veux simplement dire que j'adhère à 200% aux remarques qu'elle vient de nous faire, ainsi qu'au rapport du CESE. Remarque qui en arrive à ne pas vouloir opposer, à ne pas accepter d'opposer, d'une part, l'augmentation de l'accès aux soins palliatifs, qui est bien sûr indispensable, en diminuant la souffrance physique et puis parfois même la souffrance psychique des patients en fin de vie, et aussi la mise en place d'un système qui permet d'avoir une meilleure écoute et un meilleur respect de la volonté
plus vite,
de malades en fin de vie. Par exemple, ceux qui désirent qu'on leur délivre une aide active à mourir. Quant à savoir si la loi Claeys-Leonetti qui a été votée il y a 2 ans doit être évaluée pendant encore de nombreuses années, ma réponse est non, parce que ce n'est pas du tout dans l'air du temps. Quand on identifie des lacunes importantes dans les lois précédentes, l'heure aujourd'hui est à combler les lacunes. Vous l'avez vu pour le Code du travail qui a été l'objet d'ordonnances bien moins de 2 ans après le vote de la loi.
Non, on ne va pas repartir dans la loi du travail. On n'a pas le temps.
De même que pour la demande d'asile.
Merci Jean-Louis Touraine. Je suis obligé de vous couper.
Nous allons les voter la semaine prochaine. Donc, je crois que quand une lacune existe, ce n'est pas la peine d'attendre de façon éternelle. il est clair que chacun sait aujourd'hui que la loi doit être complétée sans enlever aucun des termes de la loi actuelle qui a des bénéfices.
Merci beaucoup Jean-Louis Touraine, merci. Est-ce que je peux prendre Claude qui est médecin à Toulouse? Mais alors vraiment, 30 secondes Claude, parce qu'on n'a plus le temps, puis on fera un dernier tour de table après vous. Bonsoir Claude.
Bonsoir, écoutez, merci de prendre mon appel. Donc je suis médecin effectivement. J'ai assisté moi à l'agonie de mon père il y a à peu près 5 ans dans le cadre d'une hospitalisation à domicile. Bon, ce qu'on constate, c'est l'écrasante majorité de Français qui souhaitent en fait que l'on institue un droit à l'euthanasie ou au suicide assisté. Ce serait un droit supplémentaire et chacun serait libre d'accepter ou non. Je constate en fait une forte résistance que j'attribue pour ma part à deux institutions principalement. D'abord, l'institution religieuse et ensuite l'institution médicale, car certains médecins veulent absolument garder le pouvoir de décider à la place des patients.
Et là, je suis obligée de vous couper. Merci, Claude. Je ne sais pas s'il y avait une question. En tout cas, on va faire un dernier tour de table suite à votre intervention. Il est déjà 56, on ne peut malheureusement pas aller plus loin. Docteur Guérimand.
Je crois qu'on pose là une vraie question, c'est la limite de la médecine. La loi du 2 février 2016, à mon humble avis, a été aussi loin que possible de ce que la médecine pouvait faire, au-delà probablement que c'est un acte qui n'est pas un acte médical, qui ne ressort pas du soin, qui ne correspond pas à la définition du soin, puisqu'il ne peut y avoir de soin que ce qui est la préservation de la vie. Et voilà, on pose très
clairement ici...
Permettre
aux gens de mettre fin à leur vie, pour vous, ça ne relève pas du
médical. Ça ne relève pas forcément de la médecine, une partie du débat aujourd'hui, à mon avis, est bien là, c'est-à-dire que où est-ce que s'arrête la médecine? Où est-ce que s'arrête la médecine? Probablement que la médecine va tout à fait sur la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès. Pour moi, l'euthanasie, ce n'est pas un acte médical et ce n'est pas un soin.
En tout cas, vous, en tant que médecin, c'est pas à vous de le pratiquer.
En tout cas, s'il y a une loi demain, j'espère qu'on ne va pas demander ça à la médecine. Voilà, ça me semble une partie importante qui n'a pour l'instant pas été clairement posée.
Marion Brooke.
Je pense que je vais finir un peu comme Frédéric Guérimand en disant que mourir dans la dignité n'est certainement pas mourir d'une injection létale qui sera administrée par un médecin dont c'est absolument pas le rôle, et que je pense que la priorité absolue, c'est de mettre tous les moyens en œuvre, parce que contrairement à ce que dit Monsieur Touraine, moi je suis désolée, la loi Claeys-Leonetti n'est pas appliquée, on ne peut pas passer à autre chose à partir du moment où l'existant n'est pas appliqué. Je pense que c'est donc il faut former tous les professionnels de santé, c'est une urgence, donc il faut mettre les moyens qui vont avec, et il faut aussi que les soignants de terrain soient entendus plus que ce que vous faites actuellement. Donc, Monsieur Touraine, je vous demande à recevoir le collectif qu'on a mis en place et qui a recueilli un grand nombre de signatures et qui demande à être entendu, et aussi dans le cadre des états généraux de la bioéthique, nous demandons également d'être plus entendus, puisque c'est nous qui sommes en première ligne et concernés au quotidien par tous ces patients qui
sont concernés. Daniel Messager.
Non, juste un mot. Je ne sais pas s'il y aura un jour une autre loi, mais au moins que cette loi-ci soit appliquée et que les médecins, quand j'entends dire que effectivement les antalgiques ne sont pas donnés, que l'obstination déraisonnable, quand elle est clairement établie, elle n'est pas soulagée, et ça, c'est juste inadmissible.
En tout cas, le fait que des familles voient une personne mourir avec cette sédation, on voit quand même les gens se dessécher au bout du... C'est quand même quelque chose qui est compliqué, non? Il n'y a pas quelque chose à faire en direction de l'entourage aussi?
L'accompagnement de l'entourage est fondamental, notamment lorsque l'on pratique une sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès, mais aussi dans toute pratique sédative. Et l'accompagnement de l'entourage, ça fait partie, c'est la loi de 1999. Il serait peut-être temps de s'en préoccuper.
Décidément, les lois ne sont pas appliquées. Jean-François Delfrécy, c'est vous qui...
Je ne donnerai surtout pas de conclusion, mais ça montre bien, ce débat de ce soir illustre bien à la fois l'importance attachée au sujet par nos concitoyens. Vous avez l'occasion de vous exprimer d'ailleurs sur les états généraux de la bioéthique, si vous souhaitez le faire, c'est le moment
sur
de le faire,
site,
vous avez encore
notamment
15 jours pour le faire. Et puis, je pense en effet que, voilà, sortant à la fois des états généraux, mais aussi d'autres, des l'ensemble des pétitions, etc., c'est un vrai problème qui est sur la table, cette fois-ci en ce printemps 2018, et qui n'est pas facile, mais sur lequel on doit sûrement évoluer, sûrement vers une amélioration des soins palliatifs, qui est la priorité, et peut-être autre chose.
À voir, à suivre. Merci beaucoup Jean-François Delfrécy, merci Marion Brooke, merci Docteur Guérimand, merci Jean-Louis Touraine à Lyon et merci à Claire Vuillot du bureau de Lyon pour cette liaison à distance. Merci à tous les autres qui se reconnaîtront.